Le passage d'Ézéchiel que nous entendons aujourd'hui est assez long. Il y a une variante avec une autre lecture possible. Néanmoins, la lecture longue est intéressante. Elle est singulièrement intéressante car elle apporte quelque chose d'important sur l'Évangile. Donc, dans Ézéchiel, il est question de Dieu qui s'éprend d'un nourrisson laissé pour compte, dont on ne prend pas soin, abandonné, et Dieu s'en occupe. C'est une fille, il s'en occupe, il la pare, il la rend belle, etc. Ce nourrisson devenu une femme trompe celui qui s'était engagé envers elle et qui lui avait prodigué toutes ses richesses finalement. Voilà, et le texte finit en disant, est-ce que je vais faire comme toi? Ben non, je vais me souvenir du pacte que j'ai fait avec toi. Voilà, ce qui elle s'arrête à peu près ici, en résumé. Et alors nous avons dans l'Évangile, nous avons manqué hier, enfin manqué. La fête de l'Assomption a fait que nous n'avons pas eu l'Évangile sur le pardon. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Pierre, il a bien compté, hein. Les poissons, il sait les compter, le nombre de pardons aussi. Donc Jésus lui dit, ben, en fait, tu n'arriveras pas à compter. Tu ne pourras pas compter. Il faut pardonner tout le temps, quoi. Bon, et là, les pharisiens arrivent en disant, voilà, est-ce que notre texte dit, est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme? Alors, fort de l'étude que j'ai faite un peu hier, je suis allé regarder le vocabulaire de la Vulgate. La Vulgate, c'est ce qui transcrit à peu près la Septante, l'Évangile en grec, le Nouveau Testament en grec. Septante, c'est l'Ancien Testament, hein. Le Nouveau Testament en grec à une époque, à l'époque de Jérôme. Donc Jérôme a fait une traduction où il essaie de tenir compte du grec, peut-être même aussi de l'araméen, on ne sait pas très bien, des circonstances, de la culture, voilà. Alors si je dis ça, c'est parce que ben, il n'y a pas écrit ce que nous avons dans nos traductions, dans la Vulgate, qui est considérée comme inspirée, hein, je le rappelle quand même. L'évangile en grec l'est aussi, bien sûr. Et alors voilà, nous n'avons pas, là nous avons écrit, est-il permis de renvoyer sa femme? Est-il permis de renvoyer son ouxor, son épouse? Donc c'est une femme épousée. C'est peut-être un truisme. Mais je préfère le dire, parce qu'ensuite, au commencement, le Créateur les fit mâle et femelle, et non pas homme et femme. Bon, littéralement, le mot femelle, c'est pas très élégant, hein, je vous prie de m'excuser. Je l'aurais peut-être pas dit en public. Nkéna, ça veut dire percer. Donc, je fais pas un dessin. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que les deux sont faits l'un pour l'autre, quoi. Physiquement. Et alors, de fait, Jésus poursuit, et donc il les a fait mâle et femelle, et il ajoute, c'est voilà pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. En fait, c'est le vire s'attachera à son ouxor. Le vire en hébreu, c'est le ish s'attachera à son isha. L'andros s'attachera à sa gunaï. On aime dire gunaï, ça veut dire femme. Non, gunaï, ça veut dire celle qui est liée à un andros. Dans la Septante, hein, si on prend les comparaisons entre l'hébreu et le grec. Donc c'est intéressant de voir que on a ces distinctions-là dans l'Ancien Testament. Ça explique pourquoi Jésus dit, attendez, il y a une paire, c'est Dieu qui a fait cette paire. Alors ce que Dieu a fait, ne le divisez pas. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc ensuite, c'est bien l'homme qui renvoie son douxor, hein, dans la version latine, c'est bien l'homme qui renvoie, homo, qui renvoie son douxor, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà, ces pharisiens ont interprété que c'est plus un vir, donc un homme fait pour une uxor, mais que c'est un homme. En français, on n'a pas ces distinctions-là, hein. Soit un peu subtil. C'est plus un époux. Vir, il faudrait le traduire époux, si vous voulez. Donc c'est pas est-ce que l'époux peut renvoyer son épouse, c'est est-ce qu'un homme peut renvoyer celle qui lui sert de femme. Parce que du coup, il se réfère à Moïse, en disant, mais Moïse, il a dit oui, lui. Moïse, finalement, a été d'accord pour qu'on oublie cette paire originelle. Qu'un vir, ça va avec une uxor. Et que si c'est pas un vir qui va avec un uxor, alors à ce moment-là c'est un homo, et l'homo, qui veut dire l'homme, ben il vit seul. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, je pense, parce que ça explique beaucoup plus ce que Jésus dit. En fait, l'homme, en fonction de sa condition, il porte un nom un peu différent. Il est soit homme, soit époux. Mais ce n'est pas la même chose. Bien. Ça dépend de l'état de sa vie. Donc, nous avons ceci mis en valeur. Et donc, les pharisiens évoquent Moïse. Et là, Jésus dit, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Parce que ça montre que il y a des exceptions dans la loi. Autrement dit, le législateur, enfin Moïse, c'est pas tout à fait n'importe qui, hein. Le législateur a cette capacité de juger que son peuple a la capacité de faire ceci, ou ne l'a plus, ou ne l'a plus encore, l'a perdu, la retrouvera un jour. J'illustre ça avec Amoris Laetitiae, où finalement le pape dit, écoutez, voilà, notre monde a perdu le sens du vir uxor. Alors, comment peut-on faire redécouvrir à un couple le sens de son unité? Voilà, c'est ça la réflexion, à mon avis, du pape, qui n'est pas du tout une révolution, qui n'est pas du tout une régression des mœurs, qui n'est pas du tout... enfin, toutes ces choses qu'accusent certains hauts personnages de l'Église, je crois que c'est méconnaître l'Écriture et la manière humaine dont les lois ont été faites pour un peuple. Et Moïse, c'est quand même une référence. Donc Moïse a vu que ce peuple n'était pas capable. Jésus dit, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Ok, ils ont le cœur dur. Bon, bah, aujourd'hui, on peut dire la même chose, hein. On a le cœur dur, on n'est pas prompt au pardon, on est prompt au compte. Qui est le coupable? Voilà, c'est la seule chose qu'on sache dire en France, finalement. Qui est le coupable? À qui on doit couper la tête? Au lieu de dire, bon, est-ce qu'il y a des circonstances? Comment on fait? Est-ce qu'on s'est aidé? Est-ce qu'on... Bon. Donc voilà, ça, je crois que c'est cet exceptionnalisme qui est possible, qui n'est pas encouragé par Jésus. Mais il dit, voilà, à cette époque-là, vous ne pouviez pas faire mieux. Et puis, évidemment, on arrive au royaume de Dieu. Donc, il y a ceux, tous, finalement, sont appelés à ça, puisque nous serons tous dans un état angélique, hommes ou femmes, dans la mesure où nous arriverons dans le royaume de Dieu. Donc, c'est dire que finalement, cette manière de rester homme, et non pas époux, est une manière de parler de l'avenir, de parler du royaume de Dieu. C'est la mission des consacrés, finalement, hein, de refléter ce pourquoi nous sommes faits, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Hein. Nous avons une tendance assez grave à nous arrêter sur terre, à essayer de nous planter notre tente le plus longtemps possible, en oubliant que ce n'est qu'un passage qui peut être très long. Il peut durer 50 ans, 100 ans, peut durer très peu de temps. Voilà, mais c'est pas un lieu d'installation, c'est un lieu de passage. C'est très difficile pour nous, hein, parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. On sait que c'est la vie éternelle, mais alors quelle forme elle prend? Est-ce qu'il y a des sièges? Est-ce qu'il y a des récréations? Est-ce qu'il y a une cloche qui sonne? Enfin bon, bref, voilà. On est dans un monde créé tout de même, puisque nous sommes des créatures. Mais voilà, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et alors, je voudrais finir avec le commentaire d'Ézéchiel. Parce que Jésus dit, voilà, on ne renvoie pas son épouse, sauf en cas d'union illégitime. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. En Ézéchiel, Dieu va rechercher son épouse adultère. Donc là, nous avons deux choses, ce que Dieu fait. Et ce que Dieu consent que l'homme puisse faire parce que peut-être c'est trop difficile. Combien d'hommes, combien de femmes consentent officiellement, hein, je dis pas on fait semblant qu'on pardonne sans le dire, non, on se retrouve devant leur époux, leur épouse à genoux devant eux, leur disant « je te demande pardon ». Premièrement, et deuxièmement, l'autre partie tellement meurtrie parvient-elle à pardonner et à retrouver le pacte initial dont il est question dans Ézéchiel, à savoir le mariage, le sacrement de mariage pour nous. Voilà, c'est une vraie question. C'est pas évidemment, hein, je lis entre les lignes, mais il y a écrit ça finalement, et c'est ce qui se passe dans Ézéchiel. Dieu revient toujours. Et pourquoi Dieu revient? Parce qu'il ne peut pas se renier. Et pourquoi nous pourrions revenir? Bien, parce que nous savons que tout ne s'arrête pas ici. Et que c'est au ciel que ça s'arrête. Et finalement, si vous pardonnez à ceux, si vous faites du bien à ceux qui peuvent vous faire du bien, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Dit Jésus. Est-ce que ça ne veut pas dire pardonne à celui qui pourra peut-être pas pardonner. Donne à celui qui ne peut pas donner. Donne ton temps à celui qui est avare de son temps. Donne ton sourire à celui qui n'y arrive pas à te sourire. Donne de l'humour à celui qui n'en a pas. Fais un geste délicat à celui qui est raide et rustre et qui n'y arrivera pas. Peut-être c'est une manière un peu de développer un peu ça. Bon, enfin, que le Saint-Esprit nous aide à trouver ce qu'il veut nous dire à chacun au moment où nous écoutons, où nous prions. Amen.